Le Forum de l'UNIS, en partenariat avec Drieux Combaluzier et TK Elevator, jeudi 9 septembre 2021, en direct du CESE à Paris.
12h30 passé sur ce 9e forum de l'UNIS Île-de-France Grand Paris au CESE. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Mais avant, on a le plaisir d'avoir deux invités sur notre plateau suite à la conférence, la deuxième conférence dont on vous a parlé tout à l'heure sur le handicap qui s'intitulait « Changeons notre regard sur le handicap ». Nous recevons sur le plateau Damien Caillot, cofondateur de Quid, et Virginie Delalande, coach, conférencière, écrivain, qui a participé à cette conférence et qui est surtout avocate et sourde de naissance. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Écoutez, je suis ravie, c'est une expérience un peu singulière et je suis ravie de voir que, eh ben, on peut être sourde et faire une émission de radio.
Absolument. Ce n'est pas la promenade pour moi.
Eh bien, c'est génial. Je suis vraiment ravie. Vous êtes en plus une on vous verra dans le podcast, puisque nous sommes en radio filmée, mais vous êtes une très belle femme. Et voilà, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour partager sur cette conférence ce qui s'est dit un petit peu autour du handicap, et vous en êtes une fière représentante. Damien, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très très bien, très très bien. C'est un plaisir d'être avec vous.
Comment s'est passée la conférence ?
Magnifiquement bien.
Alors je crois que c'est un des sujets qui tenait à cœur d'Émilie Asselin-Jousset. On en a parlé plus tôt lors de son discours, suite à son discours d'ouverture. Le handicap. Qu'est-ce qu'on peut dire du handicap ?
Il faut absolument changer le regard sur le handicap, avoir un regard beaucoup plus positif, bienveillant, joyeux, et surtout un regard où on se rend compte que le handicap est aussi une force et une chance.
Damien, qu'est-ce que vous rajouteriez à cela ?
Alors dans un langage de réseau, dans les réseaux sociaux, je dirais je plus sois ce que vient de dire Virginie. Non, bien évidemment, en fait, il faut gommer tous les obstacles, tous les préjugés, toutes les représentations négatives qu'on peut entendre ici ou là ou voir, hein, parce que malheureusement ça se traduit aussi parfois aux autres. Il faut vraiment les gommer et en fait, il faut rendre le handicap n'étant pas comme un obstacle, n'étant pas comme un frein et autrement, et que ça soit plutôt un levier de cohésion et un levier de performance.
Alors, du coup, votre présence à l'UNIS, c'est pour faire découvrir aux adhérents le fait que peut-être on peut embaucher des gens qui subissent un handicap ? Virginie ?
Absolument, on peut embaucher des personnes en situation de handicap parce que ce sont des personnes qui ont des compétences et qui vont permettre à l'autre prix d'être encore plus performante. Et c'est justement leur singularité qui va apporter cette performance. Qu'il y a davantage de créativité, d'adaptation à des mondes qui changent énormément. Et ça, le Covid nous l'a parfaitement démontré. Damien, tu l'as complété, parce que toi aussi, tu as plein de choses à dire.
Non, mais c'est exactement cela, en fait. Hein, pour prolonger le propos de Virginie, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, il faut absolument que toute entreprise, quel que soit le secteur d'activité, alors bien évidemment l'immobilier là aujourd'hui, parce que c'est le secteur d'activité qui nous concerne pour cette journée, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a, quand je le disais tout à l'heure, hein, qu'il n'y a vraiment pas de frein à l'embauche, c'est-à-dire de recruter des personnes en situation de handicap, alors avec toujours le bémol, hein, le handicap n'est pas une compétence, hein, on recrute quelqu'un parce qu'elle correspond à un profil de poste, à une trajectoire professionnelle qu'on lui a programmée ou autre, mais néanmoins c'est vraiment d'ouvrir l'entreprise aux personnes en situation de handicap, qu'on soit un handicap définitif ou éphémère, et puis il y a aussi un autre élément, c'est que le handicap touche une personne sur deux au cours de sa vie active. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle...
On est tous concernés.
Exactement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans l'entreprise, il peut très bien ne pas avoir de personne en situation de handicap déclarée, mais qui, dans quelques mois, dans quelques années... Alors, très sincèrement, je ne le souhaite pas, parce que je ne le souhaite à personne, mais...
Personne n'est à l'abri.
Mais quand ça touche une personne sur deux, nécessairement, ça veut dire que là, je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui, 200, 300, 400,
on est censé monter à 600, ça veut dire que potentiellement, il y a 300 personnes qui vont être touchées par
alors,
le handicap.
Alors, vous en avez déjà deux devant vous, mais je suis convaincu qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui.
Alors du coup, je me suis pas permise de vous demander, mais vous êtes atteint d'un handicap lequel ?
Exactement. Alors j'ai une spondylarthrite ankylosante. Alors je vous demande pas de retenir les deux mots, hein, très loin
c'est
de
barbare.
Là. Exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière un peu humoristique, si vous réussissez à placer le mot spondylarthrite au Scrabble, ça peut vous rapporter quelques points. Il y a un Y pour un peu que le mot compte triple. Enfin bref.
J'y songerai.
Au-delà de ça, c'est un rhumatisme inflammatoire. C'est la colonne vertébrale qui se consolide et puis après, par la suite, les autres os du squelette. Et c'est là, d'ailleurs, moi, c'est la raison pour laquelle je fais ce métier-là aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'étais pas nécessairement programmé pour faire ce métier, mais comme bon nombre. Enfin, voilà, et avec un vœu pieux qui est celui de rendre la société plus inclusive, de faire en sorte que la société soit sans privilèges, sans exclusivité, sans exclusion et sans cynisme. Alors, ça fonctionne sur le domaine du handicap, mais ça fonctionne aussi sur tous les autres champs de la diversité.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire deux mots de Quid ?
Alors, Quid, c'est un cabinet de conseil et de stratégie en politique handicap. En fait, alors déjà, la genèse, hein, le nom, donc K-O-U-I-D-E, qui veut dire en japonais, qui veut dire avec bienveillance. C'est-à-dire que la traduction...
C'est très joli.
La traduction en japonais nous sert de baseline, donc voilà. Donc, on n'avait pas besoin de chercher de slogan par la suite. Et en fait, nous, notre volonté, elle est celle-ci. C'est-à-dire que ce qui nous anime, c'est de rendre cette société plus inclusive, c'est de faire en sorte que les entreprises soient handi-bienveillantes, soient handi-accueillantes, de faire en sorte, je serais tenté de dire, que personne reste à quai, en fait. Et que, de toute façon, le but, il est quoi ? C'est que toute personne, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe son poste et son activité et son métier, qu'elle puisse être épanouie à son poste de travail. Et donc, l'épanouissement passe par des dimensions, on va dire, managériales, par des dimensions aussi de valeur, mais aussi par des dimensions, parfois, d'aménagement de poste, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça peut aussi passer par de l'aménagement de poste, ce qu'on appelle un peu le management empathique, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure lors de l'intervention, mais quand on parle de management empathique, c'est ni convaincre, ni conseiller, ni consoler, c'est simplement comprendre l'autre.
C'est important, l'empathie. De nos jours, ça manque parfois cruellement dans le milieu de l'entreprise. Et donc, l'objectif pour vous, j'imagine que vous multipliez les interventions comme celle-ci tout au long de l'année.
Alors, tout au long de l'année, c'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Virginie. La période Covid, là, depuis mars 2020, avait quelque peu compliqué les interventions en présentiel, mais on a continué de les faire, séparément d'ailleurs, hein. On a continué de les faire de manière en digital, hein, la plupart du temps. Mais le but, il est, moi, si je fais simplement un retour en arrière, je dirais, moi, par rapport au début de mon activité, hein, j'ai commencé en mai 2010, donc il y a maintenant un peu plus de 11 ans, on a fait des pas de géant en 11 ans. On a fait des pas de géant. Alors, il en reste encore d'autres pas de géant à faire, hein. J'aimais bien tout à l'heure la métaphore de Virginie qui parlait de bottes de 7 lieues et qu'il nous reste encore des pas à faire, hein, donc des pas de géants, hein, à faire avec des bottes de 7 lieues ou pas d'ailleurs. Mais néanmoins, on a fait des pas de géants. Mais il reste encore quelques freins à lever. Mais parce que aussi, on n'est pas sensibilisé. Moi, avant d'être en situation d'handicap et de faire le métier que je fais, moi, je n'avais jamais été sensibilisé sur le sujet du handicap. Mmh. Je pense que... Et c'est pour ça que je suis...
Alors, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on en parle de plus en plus de la question du handicap, mais c'est quand même tout de même assez récent.
Alors, c'est récent. Alors, le handicap n'est pas récent, parce que le handicap existe depuis la nuit des temps.
Non, le fait d'en parler,
mais,
bien
mais,
sûr.
Mais hein. Le fait d'en parler, il existe des lois. Il y a eu la loi de 75, 87, 2005. Je serais tenté de dire que jusqu'à 2005... C'était quelque chose qui était un peu tu. Enfin, voilà, la loi existait, mais voilà, elle n'était pas nécessairement appliquée. Et c'est surtout qu'il n'y avait pas surtout d'action répréhensive. C'était surtout ça. Il y avait peu d'action de contrôle. À partir de 2005, ça a un peu changé un peu le format. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est rentré dans quelque chose, je ne vais pas dire de plus répressif, parce qu'il ne faut pas faire peur non plus. Mais néanmoins, on avait quelque chose avec une contribution, ce qu'on appelle la contribution AGFIP quand on est dans le secteur privé, ou la contribution FIP quand on est dans le secteur public, enfin, entre autres. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une prise de conscience à la fois d'un point de vue, je dirais, légal, législatif, mais il y a une prise de conscience, enfin, qui est liée à cette législation, mais il y a aussi une prise de conscience, je pense, qui est aussi sociétale et puis générationnelle. Moi, je le vois, j'ai 52 ans, mais je vois dans les plus jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui ont aujourd'hui 22, 23, 24, 25 ans, ou peut-être un peu plus, on s'aperçoit que peu importe dans quelle entreprise ils veulent candidater, ils demandent à ce que l'entreprise ait du sens. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le fondement même de leur fonction et de leur métier futur dans cette entreprise-là, ils veulent que l'entreprise ait du sens, ils veulent que l'entreprise ait des valeurs.
La vie ait du sens. Exactement. Je crois qu'il y a une vraie recherche de sens aujourd'hui.
D'être animé par ça, et ça en fait partie. Alors, pas que, hein, bien évidemment, mais sur tous les champs de la RSE, que ce soit du développement durable, sur la protection de la planète, sur certains choix qui peuvent être faits, des choix stratégiques, des choix politiques ou autres. En fait, les candidats, et on voit que c'est un levier de recrutement, donc d'attraction, pardon, mais c'est aussi un levier de fidélisation après. Parce que c'est bien beau d'attirer, mais il faut aussi faire de la rétention.
Et puis c'est vrai que pendant des années, on avait une vision un petit peu caricaturée du handicap, c'est-à-dire que soit c'était des victimes, des pauvres choses, on en avait eu peur, ou on s'en méfiait. Ou alors on avait l'image des super-héros. Et en fait, la réponse, c'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire qu'une personne handicapée est une personne exactement comme les autres qui, à certains moments de sa vie, a des besoins particuliers. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, le handicap permet en fait, de faire évoluer la science. Parce que c'est eux qui posent aujourd'hui problème aux médecins. Et à force de trouver des solutions, on peut progresser la médecine pour tout le monde. Pareil, tout ce qui est au niveau de la recherche. Donc la recherche en ingénierie, etc. Ça permet aussi de faire des améliorations qui bénéficient à toute la société. Mmh. Vous avez également tout l'aspect humain, c'est-à-dire toutes les valeurs que veut porter les personnes en situation de handicap, sont des valeurs qu'on revendique aujourd'hui grâce à la crise de la COVID. Donc ça va être l'empathie, ça va être la bienveillance, ça va être le retour à soi. Arrêter le superficiel, arrêter l'image qu'on donne aux autres. Quand on a un handicap, on n'a pas le choix. On est obligé d'accepter ce handicap et d'accepter qui on est vraiment. Donc finalement, nous, on a la chance, entre guillemets, d'être obligé de revenir à notre trait social beaucoup plus rapidement qu'une personne qui n'a pas de handicap. Donc quelque part, tous les inconvénients se transforment aujourd'hui en chance.
Oui, je comprends tout à fait. J'imagine que tous les deux, vous êtes quand même très fiers de toutes les médailles qui ont été ramenées par nos handis sportifs lors des JO.
Oui, exactement. J'étais au live des Jeux, moi, sur le Trocadéro. Alors, sauf le dimanche où tous les médaillés étaient présents, mais j'y étais du jeudi au samedi, donc 54 médailles, c'est juste formidable.
C'est formidable.
C'est juste formidable. Alors, ça laisse, on va dire, beaucoup d'espoir, parce qu'on ne va pas vendre la peau de l'ours avant, mais ça laisse de bons espoirs pour Paris 2024, hein, pour les JO et JP, hein, enfin, donc Jeux Olympiques, mais bien évidemment Paralympiques, hein, parce que c'est ce qui nous concerne le plus. Après, avec toujours ce petit bémol où je me dis qu'en termes de médiatisation, alors quand je parlais d'efforts qui ont été faits, je ne les mets pas du tout. Hein, je n'est pas du tout en cause, mais quand on regarde les Jeux paralympiques de cette année de Tokyo, ont été retransmis donc, par France Télévisions avec 100 heures de direct. Donc on va se dire 100 heures de direct pour 13 jours de compétition, c'est déjà pas mal. Mais par exemple en Angleterre, c'est Channel 4 qui a eu le contrat, et Channel 4 c'est 400 heures de direct sur la même période. Donc vous vous doutez bien qu'en 400 heures de direct, bien évidemment, on montre,
du simple au quadruple.
On montre plus de compétitions, plus de champions, plus de championnes, il y a plus d'interviews, il y a plus de reportages, il y a plus de plateaux ou autres. Donc là, encore une nouvelle fois, il y a encore des pas à faire. Alors, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, bien évidemment. Ce qui est fait et c'est déjà très bien. Mais ça prouve encore qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire et que dans les trois années qui nous restent, il y a plein d'efforts à faire. Et je serais tenté de dire, c'est que d'avoir comme objectif Paris 2024, c'est une chose, mais il y a aussi l'après Paris 2024. Il ne faudrait pas que tout s'arrête. Au lendemain de la fin de la compétition des Jeux paralympiques, et il faut justement que ça se poursuive, c'est-à-dire que les clubs sportifs, que les installations soient toujours accessibles physiquement, mais pas que, enfin je veux dire accessibles aussi, que quelqu'un, un jeune ou une jeune en situation d'handicap, quel que soit son handicap, puisse faire de la natation, puisse faire de l'athlétisme, du football, du basket, que sais-je, alors après adapté ou pas, selon son en fauteuil ou pas, mais bien évidemment, mais il existe mille et une choses qui peuvent exister, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête après Paris 2024.
On souhaite que le mouvement soit lancé. Virginie.
Et puis il y avait aussi un sujet qui m'avait fait un petit peu rire de manière ironique. C'est qu'on a dit les sportifs français nos situations de handicap étaient extraordinaires. Ils nous rapportaient beaucoup de médailles, donc ils nous rapportaient à peu près
54.
Non, ça c'est énorme, les pas handicapés.
Si, aux Jeux paralympiques, 54 médailles.
Oui, et les paralympiques ne rapportaient plus.
Oui, bien sûr.
Et en fait, il n'y a pas vraiment eu de reconnaissance par rapport à ça. Et ça, c'est une vérité de tous les sports.
Oui, mais ce qui est génial, c'est qu'on a quand même eu l'occasion de voir des images qui nous ont permis aussi, nous, pour le coup, personnes non atteintes d'un handicap, de se rendre compte, en fait, à quel point un sportif handicapé pouvait être performant.
Oui, mais surtout rendre ce pays fier.
Bien sûr.
Surtout des médailles pour la preuve.
Et des handicaps parfois très lourds. C'est-à-dire que quand moi j'ai vu, je crois, les basketteuses sur le terrain en fauteuil roulant, c'est quand même hyper impressionnant.
Oui.
On se dit ce qu'elles font en ayant quand même ce handicap de départ, c'est juste incroyable. Et le fait de faire découvrir ça aux enfants, au grand public, c'est de l'inclusion déjà.
Moi, pour tout vous dire, il y a deux ans de ça, on organisait sur le stade de Meudon. avec une agence, je vais la nommer, qui s'appelle Andy Amo, hein, qui est spécialisée dans l'accompagnement de sportifs paralympiques et qui organise tous les ans, alors c'était avant Covid, organiser un événement sur le stade Marcel Beck de Meudon avec une course, je dirais, inclusive. Et dedans, sur le stade, il y avait des initiations basket fauteuil, tennis fauteuil et sprint non-voyant avec guide. Et il y a un enfant, parfaitement valide, hein, qui joue au basket fauteuil, donc qui se met bien évidemment assis dans un fauteuil, qui joue au basket et qui, au retour, après avoir joué, croise sa maman et dit à sa mère: c'est génial, moi je veux un fauteuil. et je me dis que l'inclusion, c'est aussi ça, c'est-à-dire que l'enfant, je sais pas quel âge il avait, peut-être 7 ans, 8 ans, et peu importe son âge, lui, il n'a pas vu le handicap, il a simplement vu quelque chose de ludique, quelque chose plutôt sympathique, peut-être quelque chose où il était peut-être plus performant peut-être en fauteuil que s'il avait été valide, enfin tout du moins debout, à pouvoir jouer. En plus de ça, le fait d'être assis, on nivelle quelque peu les différences de taille, contrairement à quand on est debout, jouer au basket avec quelqu'un qui fait 3 têtes de plus que vous, ça va être un peu compliqué pour marquer un panier. Mais en fait, l'inclusion, c'est ça. Après, juste le bémol que j'aimerais juste apporter, c'est que quand on parle de Jeux paralympiques, on ramène toujours le champion ou la championne à sa condition d'handicap. Oui. C'est-à-dire, on vient toujours lui rappeler, voilà, suite à son accident ou autre.
C'est un fait.
Mais à un moment donné, c'est un sportif ou une sportive de haut niveau qui s'entraîne à l'INSEP pour certains, dans d'autres centres ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est un sportif de haut niveau. Quand Djokovic, ou j'en sais rien, je prends l'exemple du tennis, mais quand Djokovic gagne un tournoi, on ne vient pas lui dire, je ne sais pas quelle enfance il a eu. D'ailleurs, je ne connais pas l'enfance de Djokovic, mais ce que je veux dire par là, on ne vient pas lui ramener sa condition, soit d'un pays d'origine, soit
de... Sa couleur de peau.
Exactement, ou sa couleur de peau, ouais, mais voilà, ou son origine sociale. Exactement, Virginie. Et en fait, voilà, c'est que très souvent, c'est le réflexe, mais c'est un réflexe qui est commun à tout le monde. Hein, mais...
Qui est malheureusement humain. Regardez, moi, je l'ai commis là au début de
c'est
cette émission.
Grave,
c'est-à-dire que je savais que Virginie était sourde de naissance. Je ne savais pas que vous aviez un handicap. Il n'était pas visible. Et donc, je ne vais pas forcément nécessairement... voilà. Donc, c'est vrai qu'on découvre aussi. Et je pense que les gens commettront encore pas mal de petits impairs. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous œuvriez ensemble pour faire connaître, en fait, simplement pour nous permettre de découvrir et surtout d'inclure ça au cœur de notre société, que ce soit dans le sport, dans l'entreprise, enfin dans tous les secteurs de la société.
Les impairs ou les écarts de langage ou autres ne nous gênent pas, enfin je vous rassure, non mais ne le prenez pas mal.
Non, vraiment,
hein,
c'était...
Mais c'est simplement, ça ne nous gêne pas, mais c'est simplement de se dire voilà, il faut qu'à terme on réussisse à gommer ça. On est bien conscient que ça va pas, on va pas tout révolutionner aujourd'hui, on n'a pas sensibilisé les 600 personnes, enfin voilà, mais on se dit que s'il y en a 30 ou 40 qui ont déjà peut-être changé un peu leur modèle de pensée, leur mental, comme tu précises souvent, Virginie, ou autre, bah on se dit ces 30-40 là sont peut-être un peu convaincus, ou tout du moins vont peut-être adopter une autre posture ou autre, et puis bah peut-être que ces 30-40 vont en parler à 10 autres, et puis ça fera 300, et puis que ces 300 en parleront à 10 autres, enfin voilà, nous enfin, tout du moins moi dans mon rôle,
ça va s'infuser.
Voilà, je suis pas là pour porter une bonne parole. Enfin, j'essaye autant que faire se peut, mais tout ne m'appartient pas, fort heureusement d'ailleurs. Et en fait, le but, il est que ça s'infuse ou que ça ruisselle. Ce fut un mot à la mode.
Un mot à la mode.
À l'époque.
Alors, pour terminer cette émission, j'aimerais savoir si l'un ou l'autre ou les deux, vous avez une anecdote par rapport à votre handicap à nous partager.
Alors, une anecdote positive ou négative?
Pour le coup, quelque chose qui vous a atteint, soit positif, soit négatif, c'est vous qui choisissez. Peut-être dans le cadre professionnel, puisqu'on est dans un salon professionnel, dans le cadre de votre activité.
Dans ma vie professionnelle et personnelle, moi, j'ai beaucoup arrêté à mon handicap pour évaluer ma valeur, mes capacités professionnelles. Et qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, j'ai étonné. Et je me suis retrouvée à avoir des évolutions de poste très rapides, des responsabilités, à me retrouver régulièrement dans le bureau des directeurs en me demandant: mais comment faites-vous, madame? C'est incroyable, tout le monde vous connaît, tout le monde se demande mais comment vous faites pour trouver une telle énergie, etc. Et ça m'a toujours beaucoup amusée de voir toutes les barrières qui tombent juste parce qu'on a fait ma connaissance. Et généralement, les gens qui me connaissent n'ont plus peur du handicap. Et encore moins de la sérénité.
Mais c'est génial, parce que ça veut dire que les choses se gomment, en fait, à partir du moment où on dépasse cette peur et qu'on fait la rencontre.
Mais c'est surtout que comme je suis très accessible, les gens n'ont pas peur de me poser des questions sur mon handicap, de me dire « Non mais Virginie, comment tu as fait pour apprendre à parler ? Mais comment tu fais pour te réveiller le matin ? Et comment tu fais pour produire ?»
Oui, toutes ces questions qu'on se pose quand effectivement on n'a pas la oui.
Exactement, et en fait, c'est le fait d'avoir des réponses à ces questions qui nous fait nous dire « Mais en fait, cette personne est normale. » Elle passe le même genre de week-end que moi, le même vacances, elle part en voyage, elle voit des amis, elle fête son anniversaire, elle a des enfants, elle est mariée, elle a divorcé, etc., etc. Et en fait, ça banalise la différence. Et ça leur fait voir que finalement, nous sommes tous différents et tous singuliers.
Ça, bien sûr, hein, même sans handicap. Hein. Et bah, merci beaucoup, Virginie Delalande, pour avoir partagé avec nous cette sensation, cette expérience. Je m'adresse maintenant, pour terminer, à Damien.
Donc, en anecdote, une anecdote, j'en ai une. Alors, j'en ai plusieurs, mais là, j'en ai une qui me vient en tête. J'étais invité à un spectacle de Michel Simès. Alors, je dis un spectacle parce que c'était Salle Gaveau. Ça parlait du burn-out. Donc, Michel Simès était sur scène avec différents invités, interlocuteurs, interlocutrices. Et à la fin du spectacle, il y avait une réception, tandis qu'on faisait partie d'un parterre d'invités, donc la corbeille, comme on dit. On était invités après, il y avait une réception. Et lors de la réception, certains faisaient des selfies avec Michel Simès, et moi, j'étais plutôt côté buffet, en fait, lors de cette réception. Et je me trouve à discuter avec un homme que je ne connaissais ni d'Ève, ni d'Adam. On s'échange, enfin, tout du moins, ce que l'on faisait et tout. Donc, je lui explique, moi, ce que je faisais. Et lui, il me dit qu'il était à la tête d'une entreprise dans le domaine industriel avec à peu près 300 collaborateurs. Et là, il me dit tout de go, moi, j'ai recruté un jour une personne handicapée et je peux vous assurer que c'est terminé, je n'en recruterai plus du tout. Alors, je suis étonné, je marque un peu un temps d'arrêt et je lui explique, je peux vous demander pourquoi. Alors, il m'explique. Il a recruté une personne en situation de handicap pour un poste bien défini qui correspondait visiblement au profil recherché. Et pour exercer ce poste-là, il fallait faire une formation sur une machine bien précise chez le constructeur de cette machine en Allemagne. J'ai cru comprendre que la formation coûtait extrêmement cher. Néanmoins, la formation, on ne pouvait pas y déroger, il était obligé d'y passer. Sauf que cette personne-là était en période d'essai. Donc, au retour de sa formation, elle a donné sa démission, enfin tout du moins a expliqué à son employeur, elle a dit « moi je reste pas » ou autre. Donc lui s'est dit, je me suis fait, si vous m'autorisez l'expression, je me suis fait un peu avoir, c'est-à-dire que peut-être qu'il attendait d'avoir cette formation peut-être pour mieux vendre son CV, son parcours ou autre. Alors moi je lui ai donné deux réponses. La première, je lui ai dit « la perversité n'est pas que l'apanage des gens valides ». Déjà, soyons clairs. Donc voilà. J'ai même fait trois réponses. La deuxio, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais peut-être que cette personne-là, si elle était en recherche d'emploi, peut-être qu'entre-temps, elle a eu une réponse à une autre candidature, peut-être sur un poste qui lui plaisait plus, peut-être plus proche de chez elle ou autre. Et puis je lui ai dit, troisième élément, et qui pour moi est le plus important, je lui ai dit, vous me dites que vous avez à peu près 300 collaborateurs. J'ai dit, je suis certain que parmi les personnes valides que vous avez recrutées depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, que vous avez été parfois déçus. On l'a tous été dans le recrutement. Enfin, sauf quelqu'un qui n'a jamais fait de recrutement, mais quand on a fait du recrutement, on a tous été déçus en se disant croit à telle ou telle personne. En fait, on est déçus.
Là, clairement, enfin moi, en tout cas, de ce que vous m'expliquez, le handicap n'a rien à voir avec ça. On a des personnalités enfin.
Et là, il me répond, il me dit bien sûr que oui, j'ai été déçu des dizaines de fois sur des recrutements. Et je dis pour autant, vous n'avez pas arrêté de recruter des valides.
Oui, non, mais complètement. C'est un peu comme quand vous êtes une femme et qu'on vous dit vous êtes une femme, parce que ça se voit, vous réagissez comme ça alors que c'est complètement faux. Ou alors parce que vous êtes noire. Enfin, c'est
tous ces clichés, non, mais exactement.
Voilà, qu'il faut faire tomber. Et en tout cas, merci de participer à rendre la société bienveillante à ce sujet et à nous faire savoir votre savoir-faire. Est-ce que vous accompagnez des entreprises dans ces démarches ou pas?
Bien sûr.
Ouais.
Ah oui, nous, c'est notre quotidien.
Très bien. Donc, Quid, K-O-U-I-D-E. N'hésitez pas à faire appel à eux. On vous remercie beaucoup tous les deux. C'était une émission un petit peu en dehors des clous. Hein. Je suis désolée de le dire, c'est un sujet qui tient à cœur et qui en même temps est une vraie expérience de plateau radio aussi. Je vous souhaite une excellente continuation. J'espère que vous allez rencontrer plein de gens aujourd'hui.
On le souhaite.
Et je vous le souhaite vraiment avec le cœur. Et Virginie Delalande et Damien Caillot, on aura plaisir à vous retrouver peut-être, à vous recroiser dans les couloirs d'une autre journée, d'un autre forum. Et on vous souhaite un très bon 9e forum de l'UNIS Île-de-France Grand Paris.
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Le Forum de l'UNIS, en partenariat avec Drieux Combaluzier et TK Elevator, jeudi 9 septembre 2021, en direct du CESE à Paris.